dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralph Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralph Denk ? Envoyez-les à tobias.ruffu@ovbmedia.de et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Remco Evenepoel remporte la 15e étape du Tour de France. Lors de sa superbe arrivée au sommet, il bat le dominateur Tadej Pogacar au sprint et décroche la victoire tant attendue pour l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe. Plutôt, une chute de Jonas Vingegaard a assombri le grand final. Dans un virage à droite, pourtant sans danger, le deuxième au classement général a chuté et a dû abandonner la course, blessé. Après cette frayeur, l'équipe Red Bull Bora Hansgrohe aborde la montée finale avec beaucoup d'intensité. Quand Pogacar prend le relais, seuls Isaac Del Toro et Remco Evenepoel parviennent à suivre. Finalement, le Belge a les meilleures jambes. Nous analysons cette étape folle ainsi que toute la deuxième semaine du Tour et pour cela, nous retournons en France. Je pose tout de suite la question à Ralph Denk. Et quel point es-tu heureux de ce résultat et t'attendais-tu à un tel final aujourd'hui?
Oui, heureux, super heureux. On ne peut pas faire mieux. Et c'est beau que Remco gagne pour nous la première étape non contre la montre sur le Tour de France. Il a déjà gagné des étapes ici, mais seulement en contre la montre, entre guillemets, mais jamais homme contre homme. Et aujourd'hui, homme contre homme face à Pogacar, face au champion actuel du Tour de France.
Et oui, c'est une grande victoire pour nous aujourd'hui et ça nous rend tous très très heureux, je peux l'imaginer. Tu as l'air encore très très calme.
Nous analysons maintenant tout cela étape par étape, mais nous devons malheureusement commencer par ce qui s'est passé avant la montée finale. C'est la scène du jour. Dans un virage à droite, Jonas Vingegaard chute, sa roue avant semble glisser, il tombe et il devient vite évident qu'il doit abandonner ce tour.
Comment as-tu vécu et vu cette scène? Est-ce simplement un manque de chance ou quelle est ton impression? Oui, on voit bien avec cet exemple ou cet accident les défis actuels du cyclisme sur route.
C'était un rond-point qu'il y avait finalement de ce côté. Une sortie et une entrée, c'était vraiment un virage serré. Ce qui me semble un peu étrange ou qui m'interpelle, c'est que l'équipe de Jonas Vingegaard, Visma-Lisa Bike, est entrée dans le rond-point en groupe et à peu de choses près, tout le monde est passé sauf Jonas. Mais là, il n'y a pas vraiment de bonnes images. J'ai essayé de regarder ça plus en détail maintenant. Et finalement, le résultat ne change pas. Il est tombé, d'après ce qu'on a vu, fracture de la clavicule. Il a tout de suite reçu une écharpe de la part des secouristes. C'était en tout cas impossible de continuer. Bien sûr, une perte amère pour l'équipe. Je suis aussi désolé pour Jonas qu'il doive ainsi quitter le Tour de France cette année, mais cela fait partie de notre sport et cet exemple montre à quelle vitesse tout peut basculer. Oui, absolument. Comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment d'image. Florian Lipovits a dit qu'il a pu freiner juste derrière et le contourner.
Il pense que le virage a peut-être été un peu sous-estimé. C'est difficile de vraiment analyser la cause exacte, n'est-ce pas?
Oui, c'est vraiment difficile. Peut-on reprocher quelque chose à l'équipe? Je ne sais pas. Peut-on reprocher quelque chose à l'organisateur? Ah, mais ils ont quand même, disons, balisé, sécurisé avec des bottes de paille et tout le reste. Mais comme je l'ai dit, ce sont les défis actuels du cyclisme sur route. Hein. Nous avons beaucoup de ronds-points, beaucoup de ralentisseurs, beaucoup de zones à trafic limité.
Cela ne facilite pas le fait que les courses se déroulent sans chute. Il a fallu oublier cette scène très rapidement. Le rythme a été ralenti brièvement car l'arrivée au sommet approchait. Jusque-là, Lisa Pike avait mis beaucoup de pression. On aurait dit que vous preniez un peu le relais. Vous avez attaqué cette montée à fond. Raconte-nous quelle était votre tactique à ce moment-là. Oh, saviez-vous déjà que Remco avait de bonnes jambes aujourd'hui ou pourquoi avez-vous attaqué aussi agressivement?
Oui, tout d'abord, il faut dire que le groupe dans lequel Jonas a chuté a d'abord attendu Jonas. C'est une loi non écrite. Quand un coureur de premier plan chute, on ne profite pas immédiatement de la situation. Et le groupe de Jonas a d'abord attendu. Nous avons perdu 1 minute. Le groupe de tête a repris 1 minute d'avance car nous avons attendu Jonas un moment. Mais quand il attend, ça a été clair que Jonas ne reviendrait pas. La course a repris et c'est d'abord l'équipe Bahrain Victorious qui a pris le relais. Ce n'était pas nous. Et ce n'est qu'au début de l'ascension finale que nous avons pris le relais. Et notre objectif était en fait de monter les 3 premiers kilomètres qui étaient très raides à un rythme modéré. Nous ne voulions pas préparer une attaque. Nous voulions d'abord voir pour prendre le contrôle de la course, pour que le rythme soit rapide, mais sans aucune attaque. Et ça, surtout Jai Hindley l'a très, très bien fait. Puis Tadej Pogacar a pris le relais, l'écart s'est creusé et seul Remco Evenepoel et Isaac Del Toro ont pu suivre Tadej Pogacar.
Oui, j'aimerais bien revenir là-dessus avec toi. Pogacar prend les commandes dans cette situation, mais ce n'était pas la classique attaque de Pogacar où il écrase tout. Il a juste imposé un rythme qui permettait encore au moins de suivre. Pourquoi fait-il ça? Avait-il une idée derrière la tête pour aider Del Toro, ce qui est en soi de la folie? S'il porte le maillot jaune, ça devrait être l'inverse.
Ou qu'en penses-tu, quelle était l'idée derrière tout ça? Oui, ce n'est un secret pour personne que Tadej Pogacar et Isaac Del Toro s'entendent bien. Ils avaient aussi devant, avec Adam Yates, un équipier qui revenait de l'échappée. Ils ont pu l'utiliser pour réimprimer le rythme. Et bien sûr, ce n'est pas un secret non plus que l'équipe UAE Emirates aimerait avoir 2 coureurs sur le podium à Paris. Et Isaac Del Toro est logiquement celui de l'équipe qui peut réussir à monter sur le podium à Paris. Et par conséquent, on peut se permettre de tels jeux tactiques quand le leader a 5 minutes d'avance.
D'accord. Donc en fait, de l'aide du patron en personne, rétrospectivement, c'était parfait pour vous. Mais soyons honnêtes, il n'y a que Remco qui puisse encore suivre. Je crois que ça a surpris beaucoup de fans de cyclisme, moi y compris. Pas toi ou comment t'as vu ça? Je dirais que c'était déjà une confirmation de notre stratégie depuis fin avril.
Et il y a eu un changement d'entraîneur en interne pour Remco Evenepoel et des décisions courageuses ont été prises. Par courageuse, je veux dire, il a couru Liège-Bastogne-Liège fin avril et n'a plus fait de course jusqu'au Tour de France. Donc c'est plus de 2 mois sans course. C'est quelque chose de très inhabituel dans le cyclisme professionnel. Mais le nouvel entraîneur est l'ancien entraîneur de Jonas Vingegaard. Il avait choisi cette approche. Nous lui avons laissé carte blanche pour qu'il puisse, disons, faire ce choix audacieux. Nous ne nous sommes pas, nous sommes pas mêlés de ces affaires et je ne peux que féliciter le nouvel entraîneur, Tim Hemskerd, pour le travail accompli avec Remco depuis fin avril. Vraiment, cette concentration totale sur le tour avec moins de courses.
C'était aussi un sujet dans les médias concernant son poids, le fait qu'il ait perdu quelques kilos pour mieux passer les cols plus raides. Penses-tu que ce soit un facteur? C'est un ensemble et nous avons déjà parlé de poids ici. Je ne vais pas révéler de chiffres précis.
C'est une question de droit à l'image pour Remco. Je ne veux pas m'en mêler, mais on voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de marge, ou plutôt de poids à perdre pour Remco. Et oui, c'est vrai que pour des ascensions comme celle de la finale d'aujourd'hui, il faut être relativement léger, mais il ne faut pas oublier une chose, le poids ne fait pas tout. Il faut aussi être capable de fournir la puissance nécessaire, et c'est précisément cet équilibre qui compte. Et je dirais que jusqu'à présent, tout semble très, très bien se passer pour Remco.
Aujourd'hui, il les avait, c'est certain. Parlons du final. Ils sont trois à s'échapper en tête. Pogacar impose un rythme élevé tout du long jusqu'à la fin, un rythme très élevé. Personne d'autre ne peut suivre. Et là, on est en fait deux contre un au niveau de la tactique d'équipe. Pourtant, Remco est le plus rapide à la fin. J'ai eu l'impression que c'était aussi la première fois que Pogacar n'avait pas l'air aussi frais, du moins pour ce qui est du sprint. Est-ce que c'était une erreur tactique de l'équipe UAE? Remco a-t-il été si bon ou étaient-ils tous à bout de force? Et Remco était-il le meilleur sprinteur? Comment as-tu vu ce final? Bon, là, pour moi, demain, Isaac Del Toro était celui qui était le plus à la limite.
Cela reflète aussi son classement. Il a fini troisième et dernier du sprint à trois. On sait que Remco est très punchy. Il était aussi hier, par exemple, à l'arrivée, il a encore pu prendre quelques secondes, par exemple aussi à Rafael Ayuso. Oui, finalement, c'était un duel homme contre homme où Remco a été meilleur aujourd'hui que Pau Pogacar.
Est-ce que vous lui avez donné des consignes dans le final ou était-ce simplement, nous avons parlé hier de l'icône, cet instinct de tueur pour remporter cette course?
Ce sont vraiment ces moments où les coureurs les plus emblématiques déploient malgré tout leur talent et leur savoir-faire. Et c'est pour cela qu'ils sont si iconiques, parce qu'ils remportent des arrivées au sommet aussi prestigieuses que celle d'aujourd'hui sur le Tour de France, au lieu de finir deuxième ou troisième.
Absolument, mais vous avez un deuxième leader dans votre duo, c'est Florian Lipowitz. Il a réussi à se détacher d'Ayuso avec Paul Seixas. Il est donc cinquième au classement général. C'était le maximum aujourd'hui. N'était-il pas tout à fait en forme? Car tout le monde s'attendait à ce que, sur de si longues ascensions, Florian Lipowitz soit à son avantage. Comment ça s'est passé aujourd'hui?
Oui, ça se joue à des nuances et Florian était vraiment bon. Je suis ravi pour lui qu'il ait pu progresser aujourd'hui au classement général, passant de la sixième à la cinquième place et que nous ayons repris du temps sur Juan Ayuso de l'équipe UAE. Il a fait exactement ce qu'il fallait. Il était dans le deuxième groupe. Il n'a pas eu à travailler car Remco était devant et nous avons laissé tout le travail à Paul Seixas et il reste plus d'une semaine de Tour de France à courir. Cela ne laisse pas non plus indemne un jeune coureur comme Paul Seixas avec toute l'énergie qu'il a dépensée dans la dernière ascension, alors que Florian a pu économiser ses forces dans sa roue. Et donc, je m'attends à ce que dans la dernière semaine, quand on sera vraiment en haute montagne, là où les ascensions ne font pas 10, 11, 12 km comme maintenant, mais que le col de Galibier fait 30 km de long. Et là, j'attends un Florian Lipowitz très, très fort. Et nous verrons alors comment nous pourrons l'utiliser tactiquement.
Mes félicitations aussi pour la performance de Florian aujourd'hui. Utilisé tactiquement, cela signifie que Florian Lipowitz pourrait éventuellement aussi faire un travail d'équipier pour Remco Evenepoel.
C'est beaucoup trop tôt pour en parler maintenant. Nous profitons aujourd'hui de la victoire de Remco Evenepoel. C'est aussi une victoire de toute l'équipe, car quand on a vu ce que l'équipe a accompli dans la montée finale, ce n'est pas seulement une performance individuelle de Remco, mais vraiment celle de toute l'équipe. Et demain, c'est jour de repos. Nous profiterons encore un peu de ce moment de victoire. Mardi, c'est le contre-la-montre et après, nous regarderons le classement général pour définir une tactique. Nous verrons comment aborder l'étape de mercredi, qui travaille pour qui et quelle sera la stratégie globale. Mais c'est beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, nous profitons du moment.
et c'est tout à fait justifié. Nous parlerons aussi brièvement du contre-la-montre à venir après la journée de repos. Il faut toutefois admettre, et tu as déjà tiré la conclusion, que c'est une très bonne position de départ maintenant. Nous avons Remco Evenepoel deuxième, nouveau deuxième, suite à l'abandon de Jonas Vingegaard. À une minute, on retrouve Del Toro, puis Seixas et Lipovic. Si tu fais le bilan de ces deux semaines et que vous arrivez avec une telle position, t'aurais probablement signé pour ça au début, non? Absolument, si on nous avait dit qu'avant le deuxième jour de repos, on serait deuxième et cinquième au classement général, avec déjà une étape remportée.
Le contre-la-montre n'a pas encore eu lieu, où Remco fait aussi définitivement partie des favoris. Jusqu'ici, c'est un bon tour, mais le tour se termine à Paris et je veux me répéter, comme nous l'avons fait lors de notre présentation du Tour de France ici, le week-end final autour de l'Alpe d'Huez, avec les très grands géants comme le col du Galibier ou le col de la Croix de Fer. Cela va encore tout chambouler et c'est pourquoi on ne peut pas dire maintenant que c'est fini et que, comme ça se présente, le classement général restera tel quel jusqu'à Paris, car il reste encore de vrais géants des Alpes.
Mais qui a aussi donné à un Remco Evenepoel un incroyable regain de confiance, je pense. J'ai juste entendu brièvement l'interview à la fin où il disait que ça compte beaucoup pour lui de gagner une telle étape et pas, entre guillemets, seulement dans le contre-la-montre où il sait qu'il est capable de le faire. Tu abordes ces longs cols différemment quand tu sais que tu as déjà gagné une telle étape ou une longue ascension, non? Oui, c'est clair. Et il y a ce dicton, je crois, qui déplace des montagnes.
Et c'est vraiment très, très utile pour la suite, pour Remco. Il a prouvé aujourd'hui qu'il peut rivaliser avec Tadej et les meilleurs de ce Tour de France. Et ça lui donne assurément une bonne dose de confiance.
Très, très bien, Ralph. Avant d'aborder le contre-la-montre après la journée de repos, nous avons encore une ou deux choses à rattraper qui ont eu lieu hier. J'ai entendu dire, et Florian Lipovic ainsi que toi-même l'avez peut-être remarqué, nous en avons parlé, combien il y avait de fans sur le bord de la route hier. Florian Lipovic a remercié plusieurs fois aujourd'hui, il était encore un peu sous le choc. En partant, as-tu aussi réalisé à quel point il y avait du monde autour de vous?
Non, c'était encore le sujet de discussion aujourd'hui dans le paddock avant le départ. Incroyable ce qui se passait dans cette région moins développée de l'Alsace. Le nombre de personnes qui ont trouvé le chemin pour venir. Et nous avons parlé hier du tracé qui était idéal, mais aussi du nombre de fans allemands présents. Et je n'ai peut-être pas pu le refléter ici dans le podcast hier, car je n'étais pas sur le parcours moi-même. J'étais dans le bus de l'équipe qui n'était pas sur le parcours. Il était plutôt en direction de la vallée. Est-ce que les coureurs m'ont raconté ça aujourd'hui, ainsi que les journalistes, c'est qu'ils ne sont souvent arrivés à l'hôtel suivant qu'à 2 ou 3 heures du matin à cause des embouteillages. Toute la montagne était bloquée. C'est, je crois, un signe que l'Allemagne serait de nouveau prête pour un départ du Tour de France, quand je pense aux nombreux drapeaux allemands sur le bord de la route et aux nombreuses inscriptions sur la chaussée.
Il fait bouger les choses, c'est indéniable, on peut vraiment le dire. Nous avons eu une deuxième histoire, un peu moins réjouissante. C'est quoi, il s'agissait d'un incident avec les contrôleurs antidopage. On a pu lire que Jonas Vingegaard a été réveillé à 2h du matin et Tadej Pogacar à 5h. Tous deux l'ont plutôt bien pris, mais c'est évidemment fatal pour la récupération. Tadej a dit en interview, sans vouloir rejeter la faute sur qui que ce soit, que c'est peut-être ce qui explique pourquoi Jonas Vingegaard n'était pas assez attentif dans ce virage à droite.
Comment vois-tu ce genre d'incident? Dans quelle mesure cela influence-t-il vraiment une étape comme celle d'aujourd'hui? Oui, j'ai toujours dit que le cyclisme est le sport le plus étroitement contrôlé. Nous avons aussi une histoire très sombre et c'est une bonne chose que les contrôles soient si stricts.
S'il faut vraiment effectuer des contrôles la nuit, on peut se poser de sérieuses questions. D'un point de vue réglementaire, c'est possible. Il faut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous n'avons donc aucun recours juridique pour nous y opposer.
Mes 2 heures du matin, c'est évidemment la phase de sommeil profond.
5 heures, ce n'est pas beaucoup mieux et ça demande de l'énergie. Et j'aurais souhaité que si l'on fait ce genre d'action, peut-être pour voir ce que font vraiment les coureurs la nuit ou ce qui se passe dans le corps, alors on aurait peut-être dû le faire de manière plus globale. Donc nous n'étions pas concernés, l'équipe Décathlon n'était pas concernée non plus. Pour Lidl, je ne sais pas. Mais seulement pour 2 équipes, je ne connais pas les raisons et si c'est notre tour la nuit prochaine ou celle d'après ou pour d'autres équipes, alors c'est quelque part équitable.
Si c'était un cas isolé pour ces 2 équipes, alors je trouve la mesure très, très sévère. Nous allons donc garder un œil là-dessus. Tu nous tiendras sûrement au courant s'ils frappent à votre porte. Oui, mais là, il est vraiment temps de se reposer un peu. Dis-nous vite, tu as dit que vous vouliez fêter la victoire. Qu'est-ce qui est prévu?
Ouais, enfin, quand je dis célébrer, je ne veux pas dire qu'il y aura de la bière ou du vin sur la table, mais on va certainement trinquer un peu ce soir. On ne va peut-être pas tous se coucher à 11 heures, car demain, c'est jour de repos. Alors, on boira peut-être un bon verre de vin rouge. Mais il n'y aura pas de fête à l'hôtel car le Tour de France est bien trop dur et demain, pour le jour de repos, chacun doit faire ses devoirs.
Tout le monde a quelque chose à faire demain, donc je pense que cela restera raisonnable, ce n'est pas grave. L'important est de savourer ce succès, ce que nous allons faire. Vous l'avez bien mérité. Peut-être qu'un nouveau succès arrivera dès mardi. Je pense que le nom de Remco Evenepoel doit toujours être cité lorsqu'un contre-la-montre est au programme.
Cependant, il y a aussi 400 mètres de dénivelé à gravir sur ce parcours de 26 km, ce qui ne le rend pas si facile. Comment abordez-vous cette étape? Est-ce vraiment une occasion où l'on pourrait dire à la fin que Remco Evenepoel décroche déjà une 2e victoire? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Remco fait toujours partie des favoris actuels en contre-la-montre.
Ce n'est pas un contre-la-montre facile en ce qui concerne le dénivelé. Il y a près de 400 mètres d'un seul trait. La descente est très, très technique. Il faut donc d'abord descendre vite et, espérons-le, sans chute. Nous connaissons le parcours, nous avons tout reconnu ici et c'est un contre-la-montre exigeant. Et c'est après la journée de repos, après la 2e journée de repos. Il faut vraiment voir comment chacun récupère de la journée de repos. Ce n'est pas comme lors d'une étape en ligne où l'on peut se mettre en jambes. C'est que progressivement, si les jambes sont un peu lourdes après le repos, ça passe en 1 ou 2 heures de course. Mais dans un contre-la-montre, c'est de 0 à 100 et ce, juste après le repos.
Je suis curieux de voir comment chacun va gérer ça et ce sera en tout cas passionnant. Et nous allons regarder ça à nouveau et en discuter ensemble après.
Demain, jour de repos, il n'y aura pas d'épisode comme d'habitude. Nous reviendrons mardi avec toute notre énergie. Pour aujourd'hui et pour cette 2e semaine, je te remercie chaleureusement. Dès mardi, je serai de nouveau avec mon collègue Tobias Ruff et pour aujourd'hui, je salue et félicite tout le monde là-bas en France.
Merci beaucoup, nous allons en profiter et nous vous renvoyons nos salutations à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et Deepen Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine émission.